Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle émission avec le Cercle Laïque, l'émission du Cercle Laïque à Dreux. Et Radio Grand Ciel est très heureuse d'accueillir le Cercle Laïque sur les ondes de Radio Grand Ciel. Et pour cela, je reçois Martine Vives, qui est présidente du Cercle Laïque à Dreux.
Bonjour et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'inaugurer une nouvelle série d'émissions et puis peut-être de me faire connaître un tout petit peu plus parce que j'ai pris la suite de Jean-Pierre Dubreuil à la présidence du Cercle Laïque et ça n'est pas très évident d'arriver après quelqu'un qui a tenu la maison pendant 30 ans.
Et Jean-Pierre Dubreuil est connu des auditeurs de Radio Grand Ciel parce que de temps en temps, il venait y parler.
Oui, ça, je n'en doute pas.
Voilà, alors le Cercle Laïque, c'est vrai que c'est une vieille institution drouaise. Hein. On a fêté les 100 ans du Cercle Laïque. Et aujourd'hui,
nous allons parler d'une expérience et d'une aventure que personnellement, j'ai trouvée enthousiasmante et qui a considérablement marqué l'année 2015 et puis le début de 2016, puisque nous allons en parler, ça s'est étendu jusqu'à la fin du mois de mars.
Oui, à savoir comment le Cercle Laïque a mis à la disposition des migrants de Calais et comment il est un lieu d'accueil.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que fin 2015, sur le dernier trimestre 2015, nous avons été interpellés évidemment par l'afflux des migrants et surtout les conditions désastreuses dans lesquelles ils se retrouvaient, à Calais évidemment, mais pas seulement. Il y a eu vraiment des choses absolument dramatiques qui ont commencé à se passer et il se trouve que le Cercle Laïque possède encore une ancienne colonie de vacances en Dordogne, à Mauzac, qui est inoccupée depuis quelques années puisque les séjours de vacances collectifs ne font plus recette, qu'ils ne sont plus dans l'air du temps et que ces bâtiments sont fermés. Nous essayons de les vendre, nous n'y sommes pas encore parvenus. Et il nous a semblé tout d'un coup que ces bâtiments, ils pouvaient être utilisés utilement.
Il n'y a pas eu trop de travaux, parce que j'imagine que des bâtiments qui restent comme ça, ça veut dire qu'il faut les remettre aux normes ou...
Alors, il n'y a pas si longtemps tout de même que les derniers séjours ont eu lieu, il y a 6 ans environ. Et nous avons toujours veillé à maintenir les locaux relativement en état, de façon à pouvoir vendre les bâtiments. Donc, ils ont toujours été chauffés, entretenus. On a fait attention à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, etc. Et on allait régulièrement sur les lieux pour voir dans quel état ils se trouvaient. Donc, on savait qu'ils étaient, en principe, utilisables et dans des conditions correctes. Et en particulier, on continuait à chauffer les bâtiments l'hiver pour qu'ils ne tombent pas dans un état irrécupérable. Voilà.
Vous en parlez au passé, alors qu'actuellement, on entend le ministre de l'Intérieur parler de différents lieux d'accueil en France, etc. Alors ça veut dire une question, vous en parlez au passé, donc est-ce que c'est fini? Et deuxième question, comment les habitants de Mauzac ont-ils pris la chose? Parce qu'on a vu ici et là qu'avant même qu'ils arrivent, des personnes prenaient fait et cause contre la venue de ces migrants.
Alors, je crois qu'il faut tout reprendre depuis le début. Quand on a vu justement cet afflux de migrants, on était quelques-uns à penser qu'on pouvait mettre les bâtiments à disposition. Donc, ça s'est décidé en conseil d'administration, à l'unanimité des participants, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup surprise, mais là, on peut dire qu'il y a vraiment eu un bel élan de générosité. Et dans un premier temps, on a prévenu la préfecture de la Dordogne qu'on mettait ces bâtiments à leur disposition. Et puis, par correction, on a prévenu également le maire de Mauzac de cette proposition. Ça, c'était en septembre, et quelques semaines plus tard, le préfet de Dordogne nous a contactés en urgence en nous demandant l'accord pour y installer du monde. On n'avait pas de détails à ce moment-là, et je crois que lui en avait très peu aussi. on a fait partie des tout premiers contingents qui ont accueilli des migrants. Donc, il a fallu donner une réponse très rapide, mais comme on avait déjà un accord de principe
du conseil d'administration,
ça ne posait pas de problème. Et alors là, tout s'est précipité en 48 heures. En 48 heures, on a su que les bâtiments allaient accueillir une cinquantaine de migrants, que c'était des gens qui arrivaient de la jungle, mais c'était tout. Et la préfecture a dû faire face aussi dans l'urgence, puisque les bâtiments étaient vides. Il a fallu trouver du personnel, des lits, enfin. Bon, c'est la Croix-Rouge française qui a été chargée du premier accueil. Et puis, par la suite, c'est une association qui a été choisie par la préfecture, qui s'appelle l'ASD, l'association Solidarité Dordogne, qui a géré l'aventure. Alors, si j'en parlais au passé, c'est que les premiers migrants sont arrivés au tout dernier jour d'octobre et que l'aventure s'est terminée le 31 mars 2016. Donc, ils sont restés 5 mois dans nos locaux et actuellement, cette première affaire, en tout cas, est terminée. Alors maintenant, pour ce qui est de l'avenir, nous avons reproposé nos locaux éventuellement en cas de besoin. Je crains fort que nous soyons resollicités dans les semaines à venir, compte tenu de l'actualité. Maintenant, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Voilà.
Quand vous dites « je crains fort », en fait, bon, vous ne le craignez pas, puisque vous aviez fait ce choix à l'unanimité, je ne pense pas que vous
le craigniez.
Mais enfin, bon.
Ce que je crains, c'est que je trouve que la situation, elle évolue quand même pas vite et que malheureusement, si je dis « je le crains », c'est que je préférerais que les choses se passent autrement. Quoi. Voilà.
Alors, c'est vrai, mais justement, à Mozac.
Alors, à Mozac, donc, sont arrivés 50 hommes soudanais, très noirs, et je dis ça à cause un petit peu des problèmes qu'il y a eu avec la population. Et, enfin, soudanais, je crois qu'il y avait un érythréen et un apatride, mais la majorité était soudanaise. Donc, ils sont arrivés, évidemment, sous la pluie, faisait pas très beau. Et c'était pas forcément les meilleures conditions parce que notre centre, c'est un centre de vacances, il est un peu excentré, il est vraiment en pleine nature et un petit peu isolé. Donc il y a eu quelques inconvénients à cet hébergement, mais il y a eu aussi des avantages parce que effectivement ça a permis à tout ce groupe de rester en contact, de continuer à échanger, de ne pas se retrouver séparés, isolés, de conserver un peu des liens. Et je dois dire que l'accueil qui a été assuré par la Croix-Rouge a été d'une qualité exceptionnelle. Ils ont vraiment pris les choses en main sur place, dans des conditions qui nous ont particulièrement convenu et sincèrement je pense qu'on n'aurait pas fait mieux. C'était vraiment parfait, oui.
Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wergi alam, kiwai weru wele, changei tale, paieku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Summa tante jene kukauga, tante jene kukauga. Nosta nelko taganyu unuk ilerjil suf tafja gong. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
Et Et la population de Mozac, elle a dit quoi, elle? Parce que souvent, on voit les populations qui en arrivent à venir incendier des locaux. Alors, on est,
voilà.
On est catastrophé dans ces cas-là.
Bon, on n'en est pas arrivé aussi loin à Mozac, parce que je pense qu'il n'y a pas eu autant de personnes pour courir à la rescousse des quelques habitants qui se sont manifestés, oui, mais ça aurait sans doute pu se faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé notre premier déplacement à Louis Papillon et moi. Louis Papillon étant le trésorier de l'association, il se trouve que dans un journal télévisé, le lendemain de leur arrivée, on a entendu les récriminations violentes d'une personne qui était prête à tout faire pour empêcher que ça ait lieu, etc. Et bien que la ville ne soit pas nommée, il m'a bien semblé reconnaître les bâtiments qui nous appartenaient, donc je sentais qu'il y avait des réticences localement. Donc, deux jours après, on a décidé avec Louis Papillon de descendre, voir comment ça se passait sur place. Et ce sont effectivement nos voisins les plus proches qui ont réagi. Alors, quand je dis les voisins les plus proches, ça veut dire que ce sont les deux parcelles sont mitoyennes, mais il faut bien comprendre que c'est en pleine nature et que les deux bâtiments se trouvent au moins à, je dirais, entre 50 et 100 mètres de distance. On n'est pas dans de la promiscuité réelle. Ceci dit, je peux comprendre qui. Donc ces gens ont été assez violents, ils ont rejoint un groupe politique extrême pour chercher du soutien et ils ont essayé de monter la population, de provoquer une manifestation, enfin bref. Donc ça c'était leurs agissements. Nous, de notre côté, quand nous sommes descendus, nous avons constaté que la préfecture avait mis sur place, il y avait quelques gendarmes à l'entrée du centre. Je me demande s'ils n'étaient pas plutôt là pour protéger les migrants que pour protéger nos voisins. Mais enfin, au moins, ça avait ce double effet, en tout cas. Et que sur place, mais c'était vraiment le calme total, quoi. On est allé manger dans Mozac, dans un petit café où on a été très bien reçus. La ville était d'un calme. Enfin,
on savait qui vous étiez.
C'est un gros village. Je ne crois pas, mais on ne s'en est pas caché. Et puis, on a rencontré. Donc, on a eu l'occasion de discuter avec les gendarmes, etc. Tout s'est vraiment bien passé. Il y avait un grand calme à l'intérieur des locaux. Les migrants que nous avons accueillis, avec lesquels nous avons essayé de discuter, étaient vraiment extrêmement calmes, très polis. Charmant, vraiment, on n'a pas eu l'impression, à aucun moment, l'impression de désordre. On avait plutôt l'impression qu'ils étaient soulagés, quelque part, de trouver un refuge. Et en même temps, on sentait, dans les regards, c'était assez lourd quand même. On sentait le poids de,
le poids de tout ce
de
qui,
tout
s'était,
ce qui
passé
s'était
avant,
passé en
fou.
Amont. Oui, ouais. Ça, c'était assez dur. Et les personnels de la Croix-Rouge qui étaient présents. Moi, j'ai entendu une dame discuter avec une autre. C'était une conversation qui ne m'était pas adressée, mais que je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, et où elle disait qu'elle avait beaucoup de mal à encaisser ce qu'elle recevait de témoignages de la part de ces personnes-là, quoi. Voilà.
Ce qu'ils évoquaient était terrible.
Je le suppose. Elle n'a pas détaillé, mais j'ai vraiment eu cette impression, oui.
Cela veut dire qu'en fait, pour accueillir et vivre ensemble, c'est le fait d'être mis au contact qui amène à entendre et peut-être à changer de,
oh ben c'est évident,
de perspective.
Hein. C'est tout à fait évident. Alors par la suite, il y a eu des initiatives tout à fait louables de la part du responsable qui s'est attaché à prévenir les réticences de la population, c'est-à-dire que les migrants ne sont sortis en ville que par petits groupes et toujours accompagnés de quelqu'un de l'encadrement, de façon à pouvoir gérer la situation et ne pas effrayer les gens. Il y a eu des invitations qui ont été faites à venir prendre le café, sur les lieux, etc. Et puis, alors ça, ça a été dans un deuxième temps, mais nous, quand on est arrivé sur place, là, deux jours après leur arrivée, il y a eu un mouvement de solidarité qui s'est mis spontanément en place. Nous, quand on est arrivé, il y avait déjà des gens qui avaient apporté des meubles, de la vaisselle, des canapés, la télévision, enfin, c'était des vélos. Il y a vraiment eu un mouvement de solidarité qui a été énorme, quoi.
Ça aussi, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a une prévention, et puis en fait, on voit les choses, et on se dit, mais... Nous sommes frères, nous sommes des humains.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, alors, ce mouvement de solidarité, il ne s'est pas forcément fait avec la population de Mozac. Je pense que ça a d'abord été des gens de l'extérieur qui étaient déjà mobilisés peut-être sur des groupes de réflexion, etc. Mais ça a eu le mérite de débloquer un certain nombre de choses, je crois. Et puis ensuite, donc, ils ont proposé aux voisins de venir prendre le café, de rencontrer les migrants. Donc, nos voisins immédiats, qui étaient les plus virulents, ne sont jamais venus. Mais par contre, ils avaient réussi à entraîner avec eux un autre voisin immédiat, mais de l'autre côté, qui lui est venu, et ça a complètement changé les choses, puisque il a tissé des liens, et dans les jours qui ont suivi, il a proposé des petites promenades découvertes de la région en vélo, avec des groupes qu'il a emmenés régulièrement. Voilà, donc progressivement, il y a des choses qui se sont mises en place. En plus, ils sont descendus régulièrement acheter des cartes de téléphone, évidemment, puisque c'est le seul lien qu'ils conservent avec famille, avec leur pays. Et puis, petit à petit, les gens se sont habitués à leur présence, quoi. Voilà. Mais il y a eu, sur la chaîne LCP, la chaîne du Sénat, est sorti en avril un documentaire qui parlait de deux expériences justement d'accueil de migrants, dont la nôtre. Et c'est un documentaire d'une cinquantaine de minutes, donc je dirais à peu près la moitié du temps pour Mozac et la moitié du temps pour une autre expérience. Et ce documentaire est extrêmement intéressant parce qu'il ne cache aucune des difficultés qui ont pu se faire jour. Il raconte... l'histoire depuis le départ de la jungle, pas jusqu'à la fin, puisqu'il se termine un petit peu avant que le centre ne ferme, mais il ne cache aucune des difficultés avec la population locale et il montre comment petit à petit le fait de se côtoyer, de se rencontrer, fait que les mentalités évoluent.
Et c'est-à-dire qu'il faut d'abord... accepter la présence, ensuite se côtoyer, on reste chacun sur ses positions, puis se rencontrer. Vous avez évoqué, là, je trouve ça tout à fait intéressant, cette évolution, puisqu'en fait, c'est autour de cela. Quand on rencontre les gens, on est amené à changer.
Voilà, je pense que c'est l'ignorance de l'autre qui est la cause de beaucoup de préjugés. Pour moi, en tout cas, c'est évident.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de reprendre avec vous.
Fossé qui se creuse, toujours plus immense. Entre celles et ceux qui peinent à trouver leur pitance. Et ceux qui font bombance à s'éclater la panse. Des cris étouffés, amurés de silence. Des cris étouffés, amurés de silence. Le silence est d'or, mais bien souvent souffrance. La Banque mondiale des technocrates exigeant leur créance. Politiciens informes reniflant la finance. Des cris étouffés, emmurés de silence. Des cris étouffés, emmurés de silence. Des lois qui se font dures, seul vaut l'obéissance. Des marchands de foi ne prêchant que patience. Pauvreté provoquée qu'on appelle malchance. Des cris étouffés, emmuré de silence. Des cris étouffés, emmuré de silence. Des cris étouffés,
nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel, dans l'émission du Cercle Laïque, et nous évoquions l'accueil par le Cercle Laïque à Mauzac de migrants venant de la jungle de Calais. Et je voulais vous demander quelques précisions. Dans cette aventure, il y a eu des partenariats noués. Alors, on entendait des associations qui sont venues apporter du matériel, l'association Solidarité Dordogne, et puis aussi l'attitude des pouvoirs publics, l'attitude de ces institutionnels que quelquefois on met en cause. Comment ça s'est passé avec eux ?
Alors, je pense que la préfecture de la Dordogne n'a pas forcément été, vraiment consultée sur l'affaire et qu'elle a été un petit peu contrainte, comme nous l'avons, enfin pas comme nous, puisque nous avions proposé nos locaux, mais qu'elle a été un petit peu... contrainte de s'accommoder de cette situation qui a été programmée probablement au niveau ministériel.
Donc là, on revoit un des problèmes d'aujourd'hui, c'est à savoir, les gens disent, nous ne sommes pas consultés. Et c'est vrai que cette manière de faire ressemble beaucoup aux dispositions d'Ancien Régime, si j'ose dire.
Voilà, mais
en même temps, il faut...
Oui, en même temps, il faut avancer, il faut faire des choses. Et je dois dire que... Alors, nous sommes arrivés 2 jours après les migrants. Le préfet de la Dordogne était présent lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés en pleine nuit, un mardi soir, et il pleuvait. Et il devait être entre minuit et 1h du matin. Le préfet était sur place lorsqu'ils sont arrivés. Nous, lorsque nous sommes arrivés 2 jours après, il y a eu un grand défilé de personnes de la préfecture, de la sous-préfecture, qui ont commencé à expliquer, et ça n'était pas évident parce qu'aucun d'entre eux ne parlait français. Fort heureusement, il y avait un monsieur d'origine algérienne qui a fait la traduction en arabe, mais il faut bien savoir que ce n'est pas tout à fait le même arabe, mais enfin, il arrivait quand même plus ou moins à se faire comprendre. Et les services préfectoraux ont expliqué qu'ils allaient se charger de la prise en charge administrative de toutes les personnes qui se trouvaient dans le centre. Et je dois dire que c'est effectivement ce qui a été fait. Ils se sont déplacés à de nombreuses reprises, avec des permanences à la mairie de Mauzac, ou parfois sur place, mais le plus souvent à la mairie de Mauzac. Et ils ont monté les dossiers de demande d'asile, tout ce qui convenait. Et il faut savoir que c'était extrêmement compliqué. ça demande un travail énorme, d'abord parce que un certain nombre d'entre eux n'avaient pas leurs papiers.
D'interprétariat et puis
voilà,
de rencontre, effectivement.
Et puis, certains avaient commencé à monter des dossiers lorsqu'ils étaient dans la jungle. Donc, ces dossiers étaient dans des associations qui avaient commencé à faire ce travail dans le Nord. Donc, il a fallu reprendre contact avec les différentes associations. Tout ça, c'est la préfecture et la sous-préfecture de Dordogne qui se sont chargées de ces démarches. Et ça représente un travail incroyable. Il faut dire aussi que l'association Solidarité Dordogne, qui a géré le centre, a été en relation régulière avec la préfecture, puisque de toute façon, les fonds, il faut quand même le dire, sont des fonds préfectoraux, mais aussi nationaux. Hein. Et ça a été un engagement de l'État, et il faut quand même le souligner. Et puis, en particulier, je voudrais remercier Madame Dominique Laurent, la sous-préfète de Bergerac, qui s'est énormément investie dans cette aventure, qui l'a suivie de très très près, qui est venue régulièrement sur place, qui a rencontré les gens et qui était aussi disponible pour nous renseigner sur l'évolution de la situation, ce qui s'y passait, etc. Et c'est quelqu'un qui connaît vraiment extrêmement bien ce dossier, qu'il a suivi de très près.
Ils sont partis où, tous ces migrants? Ils sont repartis. Ils sont pas repartis en quart ou ils sont repartis chacun repartis à Calais?
Progressivement, au fur et à mesure que les dossiers s'éclaircissaient, il y a d'abord eu un groupe de 12 qui sont partis sur Périgueux et qui ont été installés dans des petits appartements. Alors là, je ne sais pas, est-ce que c'était des lieux d'accueil ou est-ce que... Mais il m'a semblé comprendre qu'ils avaient été installés dans des appartements. Alors, ceci pour pallier deux difficultés de notre centre, parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est l'isolement et que du coup, pour intégrer ces personnes à la population, il était quand même souhaitable de revenir un petit peu en milieu urbain où l'intégration est plus facile et où il y a davantage d'opportunités.
On peut apprendre le français peut-être? Peut-être que même sur place, il y en a eu ce cours.
Alors, oui, il y a eu un professeur d'origine algérienne, comme je le disais tout à l'heure, qui est venu régulièrement et qui, au moment où nous sommes venus, c'était les vacances de Toussaint, il était là matin et après-midi, et il faisait 2 heures d'apprentissage du français, bénévolement, à tout le groupe. Et c'était extrêmement émouvant, parce que parmi les hommes qui étaient dans ce groupe, il y avait des gens qui avaient reçu une certaine éducation, une certaine instruction, mais il y avait aussi des gens qui n'avaient jamais été scolarisés. Il y avait un berger en particulier qui n'avait jamais tenu un crayon. Alors, c'est en plus, alors ceux qui ont été scolarisés l'avaient été en arabe, avec l'écriture arabe de droite à gauche, et évidemment pas l'alphabet que nous utilisons nous. Enfin, c'était extrêmement émouvant de les voir. On a pris des photos, on était impressionnés de voir leur application et leur volonté de s'approprier la langue.
S'approprier la langue, ça veut dire s'approprier la culture, ça veut dire rencontrer l'autre.
Et c'est ça, oui. J'ai un petit souvenir, une anecdote très drôle. Je me suis assise un moment sur le canapé à côté d'un migrant qui regardait la télévision. Et puis, il se tourne vers moi et il me dit « Comment tu vas, mamie, aujourd'hui ?» C'était, je pense, des mots qu'il avait réussi à glaner dans sa courte période de vie en France. C'était assez amusant.
Eh bien, les 30 minutes sont achevées, donc nous allons être un peu dans l'obligation de mettre fin à notre émission. Et merci d'être venu parler de cette rencontre et de ce témoignage. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.